Variation en noir. Roman noir sur Radio PFM. Et littérature policière au pluriel. Variation en noir dans Variation, Variation en noir spécial 1er mai 2020, Guy Le Polarski au micro, vous écoutez Radio PFM et vous avez rendez-vous avec les littératures policières. Variation en noir, c'est une émission réalisée en collaboration avec 813, l'association des amis des littératures policières et en particulier avec un membre éminent de cette association, Hervé Delouche. Hervé qui est avec nous au téléphone depuis la capitale. Hervé, bonjour.
Oh, si, il est éminent, mais enfin le membre est là, oui, effectivement. Salut Guy.
Bonjour et merci d'être fidèle à notre rendez-vous. Hervé, le téléphone un 1er mai, ce n'est pas dans nos habitudes, mais ce Variation en noir est placé sous le signe du confinement. Et nous reviendrons sur le programme qui était prévu pour le Salon du Livre d'Expression Populaire et de Critique Sociale d'Arras de ce 1er mai 2020, salon annulé bien entendu, et 1er mai 2020 qui restera dans les mémoires. Nous reviendrons donc sur le programme qui était prévu pour la collaboration entre 813 et PFM qui débouche chaque année sur un Variation en noir avec invité en direct et en public qui est proposé au studio mobile de PFM implanté au sein de ce même salon. Nous reviendrons aussi, Hervé, sur le prix Amila Mecker 2020 qui a quand même été décerné. Nous parlerons du dernier numéro de la revue 813 et nous évoquerons Luis Sepúlveda, écrivain chilien qui est mort le 16 avril dernier à Oviedo en Espagne à l'âge de 70 ans, victime du coronavirus. Mais avant cela, Hervé, un son d'archive.
Voilà, mardi 1er mai 2012 en direct du studio mobile de Radio PFM au Salon du Livre d'Expression Populaire et Critique Sociale, sous le soleil à côté de la buvette. On va d'ailleurs demander aux personnes là, qui sont en train de vider les fûts de bière, de respecter la tranquillité du studio mobile de PFM. Un peu moins de bruit, s'il vous plaît, à la buvette. Alors, un nouveau rendez-vous en direct sur Radio PFM et au Salon du Livre d'Arras, avec une rencontre avec un nouveau partenaire, on va dire ça comme ça, un nouveau partenaire de Colère du Présent, l'association qui organise le salon. Ce nouveau partenaire, c'est l'association 813, qui est représentée ici par Hervé Delouche et Gwenaël Desnoyers. J'aurais dû dire d'abord Gwenaël Desnoyers et Hervé Delouche. Et il y a aussi un troisième invité à ce rendez-vous, Marin Lodin. Mais on va voir dans un instant pourquoi il est aussi invité à ce rendez-vous, à cette rencontre avec 813. Alors, avant d'évoquer le partenariat, quand même un mot de présentation. 813, c'est quoi? Oui. Hervé Delouche.
Oui, parce que 813, c'est un petit peu énigmatique. C'était en fait, c'est une des aventures d'Arsène Lupin, et c'était ce sigle un peu mystérieux qui avait été choisi il y a un peu plus de 30 ans par ceux qui ont fondé cette association, justement sans doute pour qu'on leur pose la question. Et voilà, c'est une association qui a donc 32 ans exactement, qui publie une revue à peu près trimestrielle, et puis qui est présente ou partenaire dans de nombreux salons et festivals, et par ailleurs qui a l'originalité d'être, que c'est les 800 personnes actuellement à peu près qui la composent, sont des passionnés de polar qui peuvent être dans le milieu de l'écriture ou de l'édition, mais être tout bêtement simplement des lecteurs.
Voilà, c'est ça, on est en fin de journée, alors je ne sais pas si...
Hervé, archive sonore 1er mai 2012, début de la collaboration de 813 avec Colère du Présent, qui organise le Salon du Livre Expression Populaire et Critique Sociale du 1er mai à Arras. Début aussi, c'était la première pour le studio mobile de Radio PFM, sur le salon lui-même. Auparavant, PFM, nous réalisions des interviews et un reportage. Souvenirs, son d'ambiance, Hervé?
Ah, ça fait plaisir, ça fait d'autant plus plaisir que... Bah, malheureusement, pour, vu les circonstances, on ne se retrouvera pas en chair et en os. On ne se retrouve pas ce 1er mai à Arras, mais ça fait voilà, ça fait plaisir. Et puis, de mon point de vue, et je sais aussi du point de vue de l'association de 813, et ben c'est un partenariat dont on est content et peut dire et qui je crois a, ben voilà, c'est bien ancré de part et d'autre et que ça va continuer.
Alors bon, ça ne nous rajeunit pas, mais ça ne nous vieillit pas non plus, hein, plus que cela. Hervé, c'était en le 1er mai 2012. Une bonne année roman noir, j'ai envie de dire, cette année 2012 au Salon, parce que bon, en préparant cette émission, donc en allant rechercher ces archives, j'ai retrouvé aussi une rencontre, roman noir et philosophie, avec Chrysostome Gouriot et Jean-Bernard Puy, JB, qui est un proche aussi de Colère du présent, qui a d'ailleurs écrit un livre intitulé Colère du présent. Et puis, donc tout cela, je signale, est en écoute, hein, sur le site de Radio PFM, dans les archives des émissions et reportages. Et donc, il y a une partie archives, Salon du livre, et donc il y a tout un tas de rencontres, hein, qui figurent dans ces archives et que l'on peut réécouter. Et puis, il y avait aussi une table ronde.
Si je peux me permettre, oui. tu parlais de, bah, pour cette première table ronde en public qu'on faisait et qui marquait les débuts du partenariat et où on était avec toi et Gwenaëlle Denoyer et moi pour 813. Il y avait aussi Marin Ledin qui a tout se retrouve évidemment, qui est l'auteur de romans noirs qu'on aime et qui a été qui a eu le prix Amila Maeker.
Oui, donc il l'a eu un peu après et oui. Il était présent. C'est vrai que bon, dans l'introduction de l'émission, j'évoque sa présence, mais je ne donne pas l'explication de sa présence. C'est qu'il était lauréat du trophée 813 de cette année-là.
Bien sûr.
Voilà. Alors il y avait une autre.
Pour un livre qui est les visages écrasés et qui est un roman très noir notamment sur le harcèlement au travail.
On y reviendra oui. Sur cette question. Alors il y avait aussi, écoute bien Hervé, une table ronde toujours au studio mobile, coup de jeune sur le polar français avec Caryl Ferré, Sébastien Hutès et Antonin Varenne. Antonin Varenne qui était le lauréat du prix Amila Maeker 2012. Je pense que tu me vois venir, hein, puisque...
Un peu, oui. Enfin, à peine.
Voilà. Puisque cette année, nous avions prévu, concocté une table ronde avec Caryl Ferré, avec Sébastien Hutès, donc on les retrouve, ces deux-là, 8 ans plus tard, et en troisième invité, non pas Antonin Varenne, mais Marcus Malt, à l'occasion de la sortie de son livre R aux éditions Zulma. La thématique de cette table ronde était On the Road Again, la route, le camion, ici et ailleurs, et notamment en Amérique latine, comme sujet et source d'inspiration de trois auteurs français qui tracent leur chemin dans une littérature noire sans frontières. Voilà, c'était...
C'était un peu en liaison avec quelqu'un qui... ça permet de l'évoquer ici, qui a été un écrivain de romans que moi je juge noir, pas polar, mais noir, et de critique sociale, qui était Georges Arnaud, et son très fameux Salaire de la peur, histoire de camion, histoire de route, histoire d'Amérique latine, et puis voilà, et de toute façon, ce que permet la route, le camion, il y a eu aussi d'autres auteurs, un auteur de la série noire, Georges Bell, qui a fait un livre qui a donné le film Gasoil, ou bien Pierre Mérindol et son Fausse route, paru chez Minuit et réédité aux Dilettantes, enfin voilà, et là on avait... Ces trois auteurs de très grande qualité qu'on aime beaucoup, dont on a déjà beaucoup parlé. Bon, le Pass de Caryl Ferré, on en a parlé sur cette antenne il y a très peu. Mm-hmm. Et puis, Marcus Malt, dont on n'a pas encore parlé d'air, mais on le fera. De même que Sébastien Rutès, je pense que tu as peut-être parlé, toi, de son Mictlan dans une de tes chroniques, mais en tout cas, c'est des auteurs, si tu en es d'accord, nous reviendrons sur eux, parce que ça aurait été un plateau formidable.
Voilà. Ouais. Alors, pour information, effectivement, il y a une chronique qui est prête sur Mictlan, mais qui n'a pas encore été diffusée. Par contre, pour ce 1er mai, cette spéciale 1er mai sur Radio PFM, j'ai interviewé par téléphone Sébastien Rutès qui vit à Londres. Sachez aussi donc que Karel Ferré, lui, a écrit un texte qui a été mis en son et en image pour le site de Colère du Présent, 1er mai de 2020, un site dédié à ce salon qui n'existe pas en tant que tel, mais qui existe d'une autre manière. Donc, vous trouverez sur notre site Radio PFM les liens, bien entendu, hein, pour retrouver toute l'activité menée par Colère du Présent, ces 1er et 2 mai 2020, activité donc internet. Alors, deuxième.
Je voulais rappeler, si je peux me permettre, les superbes mises en son de textes de Nicolas Mathieu et de Hervé Lecor que je pense on peut trouver au même endroit.
Voilà. Ensuite, Hervé, une deuxième. Nous avions prévu une deuxième table ronde. Nous avons les mains rouges, d'après le titre d'un roman de Jean Mecker, celui qui a donné son nom au prix du livre d'expression populaire et de critique sociale, un prix qui est remis le 1er mai à Arras, et donc qui s'est fait connaître d'abord sous son nom, Jean Mecker, en publiant plusieurs romans aux éditions Gallimard dans les années 40, avant de basculer à la série noire sous le pseudonyme Jean Amila, écrivain réfractaire, Jean Mecker, sur un ton sobre mais puissant, sans lyrisme, inutile ni niaiserie insipide, peint la vie des humbles et dénonce une société qui brise les rêves des hommes. Je te cite Hervé, hein, c'est un extrait de la présentation, la préface à ce livre, et donc en 1947, il publie aux éditions Gallimard Nous avons les mains rouges, et ce roman vient d'être réédité aux éditions Joël Losfeld. Hervé, donc nous avons déjà parlé de ce livre et nous voulions donc faire partager aux personnes présentes au salon une rencontre autour de Stéphanie Delestrée,
avec qui on fait ce travail depuis, voilà. Depuis le milieu des années 2000, c'est-à-dire de rééditer l'œuvre de Jean Mecker, à côté de ce qui est disponible sous le nom de Jean Amila en folio policier, enfin ce qui était paru à la série noire, et voilà, et donc l'aide, le soutien et l'amitié de l'éditrice Joëlle Losfeld, qui est merveilleuse, qui connaissait l'œuvre de Mecker et qui l'aimait, et donc je pense qu'on arrivera à republier l'intégrale de ce qui était paru. Reste en tout cas, sont prévus très prochainement la Ville de Plomb et la Vierge et le Taureau. Voilà, et donc c'est il y avait aussi, il était prévu également, je crois, sur cette table ronde, Pierre Goya.
C'est ça.
Qui, aux éditions Ancrage, a fait une étude absolument unique et remarquable, très, très fouillée, sur Mecker Amila, aussi bien sur le trajet que sur une étude des textes, que ce soit les romans blancs, si j'ose dire, et les romans noirs, même s'ils tous ont le même style et la même atmosphère et les mêmes soucis sociaux. Mais voilà, et il a très bien étudié le trajet de celui qui a opéré la fusion du meilleur de la littérature prolétarienne avec la meilleure tradition du roman noir social venu des États-Unis. Voilà. Amila Mecker, c'est quand même celui qui, avant qu'arrive le Manchette et puis les meilleurs auteurs du néo-polar, c'est celui qui a qui a bousculé le polar français, qui a amorcé sa mutation. À l'époque où il y avait encore les récits, les histoires de Pigalle, lui imposait un style parlé très authentique et par ailleurs commençait à pourfendre ses bêtes noires, l'armée, les guerres inutiles, les services secrets, les mensonges d'État. Et il portait la parole des laissés pour compte, des gens d'en bas.
Alors, il était prévu aussi à cette table ronde Laurent Mecker, qui est membre du jury du prix Amila Mecker, qui est le fils de Jean Mecker. Pascal Dessin et Joseph...
Il faut aussi lui rendre, parce que tant qu'à faire, il faut aussi lui rendre hommage, car c'est aussi avec son aide... son accord et sa complicité qu'on accomplit depuis bientôt 15 ans ce travail de réédition de l'œuvre de son père.
Voilà, et était prévu aussi Pascal Dessin et Joseph Pontus, lauréat des prix Amila Mecker en 2015 et 2019. Pascal Dessin que l'on devait aussi découvrir avec un nouveau livre, pas un roman noir, mais un livre sur la marche, ce 1er mai 2020. Un livre qui sortira avec un petit décalage dans le temps. En tout cas, nous saluons les uns et les autres, tous ces auteurs que nous retrouverons avec plaisir très prochainement. Ce qui nous amène, Hervé, à évoquer le prix Jean Amila Mecker 2020, 16e du nom, puisque le jury a décerné son prix. La cérémonie de remise, la cérémonie officielle en tant que telle de remise du prix aura lieu à l'automne, mais l'annonce a été faite. Il s'agit, Hervé, mais je te laisse annoncer le nom de la lauréate.
Ben, ça fait très plaisir parce que la lauréate, c'est arrêtons le suspense tout de suite, c'est Elisa Vix, qui avait qui avait publié plusieurs romans aux excellentes éditions, pas assez souvent citées, du Rouergue dans leur collection Rouergue Noir. Elle ancre ses romans dans les questions sociales. C'est totalement, je pense que tu vas dire quelques mots de Elle le Gibier, qui a eu le prix, son dernier roman. Mais elle avait été remarquée pour, notamment, moi j'avais lu un livre qui m'avait déjà beaucoup marqué d'elle, qui s'appelait Ubac. Et voilà, et donc on pourra dire, sans divulguer de secret, que c'est en plus un prix qui a fait la quasi-unanimité du jury, donc c'est d'un jury nombreux, et très varié, et donc c'est un grand plaisir.
Voilà, je rappelle, Hervé, que tu es membre de ce jury. Alors oui, un roman noir, collection Rouergue Noir, ça arrive, j'ai fait un peu le point, donc c'est le 16e, eh bien on est à peu près à 50% de romans noirs édités dans des collections dites noires. Donc un roman noir qui traite aussi du harcèlement au travail, du harcèlement moral au travail. Hein. Tout à l'heure, on évoquait Marin Le Dain avec les visages écrasés. Et on est dans la même thématique et c'est une approche subtile de ce questionnement qui résonne avec l'actualité coronavirus, parce que on évolue dans les milieux d'une entreprise de santé, une entreprise commerciale de santé, et qui aborde la question aussi de la marchandisation de la santé, Hervé.
Ça a ce double intérêt, en dehors d'un texte vraiment très très bien construit, mais autour d'un personnage qui est Cristal, qui est une jeune femme intelligente, épanouie, qui a un master de neurosciences, qui est une chercheuse passionnée, et qui est le gibier que cite le titre. Et elle est elle entre chez Medicine qui est le leader international de l'information médicale. qui recrute des jeunes gens très surdiplômés. Et puis, eh bien, ce qui devait être un, comment dire, une sorte de pas d'Eldorado pour elle, mais enfin de bel aboutissement ou de beau début de carrière va devenir une descente aux enfers. Et en même temps, c'est un livre qui dans le sillon des visages écrasés de Marin Le Dain, un, évidemment, évoque de façon très crue et très brute la souffrance au travail, le harcèlement, à travers des tas de, Cristal, on la cerne peu à peu, et ce qui lui arrive à travers des témoignages de collègues, notamment de personnes qui l'ont croisé, et deux, effectivement, qui pose le problème de la recherche médicale, de sa marchandisation, et ce qui fait évidemment écho à une situation pour nous très actuelle.
Voilà, alors pour information, donc Elisavik a aussi donc accordé une interview par téléphone qui sera diffusée ce 1er mai sur Radio PFM et que vous retrouverez aussi bien entendu sur les sites de Radio PFM et Colère du présent. Vous écoutez Variation en noir sur Radio PFM, hein, Variation en noir spécial 1er mai. On the road again, Hervé, hein, je sais que tu aimes beaucoup ce morceau.
Ah ouais.
Donc bien sûr, un clin d'œil à la table ronde dont nous avons parlé, qui était prévue ce 1er mai, mais un morceau qui peut raconter une partie de la vie de Luis, le titre hein, de ce morceau, une partie de la vie de Luis Sepúlveda, écrivain chilien, auquel nous voulions rendre hommage, hein, qui est mort donc le 16 avril dernier, des suites du coronavirus à l'âge de 60.
Un de nos adhérents à 813, le coronavirus a réussi ce que cet immense salopard de Pinochet n'avait pas réussi, c'est-à-dire tuer Luis Sepúlveda, puisqu'il avait été très longuement emprisonné, mais je te laisse en dire un mot.
Oui, rapidement, et ensuite, je sais qu'il y a, tu veux évoquer un texte, lire un texte. Effectivement, avant d'en arriver à l'écriture, il a appartenu à la garde rapprochée du président Salvador Allende, et bien sûr, ce qui lui avait valu sous la dictature d'Augusto Pinochet. Alors soit les membres de cette garde ont été tués, soit ils ont été emprisonnés. Il avait été condamné à 28 ans de prison pour trahison et conspiration, mais il a été libéré en 1977 après 2 ans et demi de détention, grâce notamment à Amnesty International, moyennant un exil de 8 ans en Suède. Mais il avait choisi de se soustraire à cette peine et a décidé d'arpenter l'Amérique du Sud, une aventure des plus fécondes, un séjour notamment auprès des Indiens Achuar, et qui a inspiré le premier roman qui l'a fait connaître en 1992 en France, Le Vieux qui lisait des romans d'amour.
Oui, tout à fait, tout à fait. Mais non, je laisse tomber en fait le texte, mais échangeons, parce que je sais aussi que tu aimes Sepúlveda, on peut dire quand même quelques mots sur... ce qu'on en a ressenti. Par ailleurs, oui, Le Vieux qui lisait des romans d'amour, quand c'est sorti ici en 1992, moi je me souviens d'un énorme coup de cœur et du fait que à l'époque Anne-Marie Métellier, elle a publié, il était absolument inconnu et ça a été un bouche à oreille de libraire. En 8 mois, elle avait vendu, je crois, 90 000 exemplaires de ce roman. Et Sepúlveda et elle étaient devenus des amis qu'ils seront jusqu'au bout et aussi des camarades. Sepúlveda a dit dans une interview qu'il avait reconnu aussi une camarade, ce qui était un éloge dans sa bouche. Hein. Oui. Et par ailleurs, ça a aussi ouvert à cette formidable éditrice, le grand lecteur qui était Sepúlveda lui a fait connaître des auteurs, et notamment deux qui, je pense, te sont chers, Guy, Paco Ignacio Taibo El Segundo et Leonardo Padura.
Voilà.
Voilà, c'est comme ça que Anne-Marie Métellier les a publiés également. Et voilà, ce qui est quand même...
Juste un mot sur... Sur Le Vieux qui lisait des romans d'amour, signalons, traduction de François Maspero. Donc,
oui,
à l'époque.
Absolument. C'était là aussi c'était une très belle chose. Il y a toujours eu un lien très fort dans les, parce que Sepúlveda, il a écrit des romans, parmi lesquels des romans noirs. Je pense au Journal d'un tueur sentimental. Je pense à Un nom de Torero.
Et un des derniers, la fin de l'histoire aussi, qui est un peu une suite de un roman de Torero. On retrouve le même personnage, une sorte d'alter ego.
Complètement.
Joan Belmonte, une sorte d'alter ego avec un parcours similaire à celui de Luis Sepúlveda.
Oui, qui a été un guérillero, qui a été un homme engagé, qui en même temps a un regard lucide sur les choses vécues. Et puis il y a une chose aussi, c'est-à-dire qu'il y a toujours un lien absolument indissociable entre la politique au beau sens du terme et la poésie. Une poésie qui est nourrie par aussi l'amour chez Luis Sepúlveda. Et il le disait dans une interview, il est fasciné par la théorie de Brecht sur la distanciation, c'est-à-dire que dans les livres, que ce soit donc des romans, des novellas, des nouvelles, les contes animaliers pour enfants qu'il a écrits, je crois que le dernier, traduit par Anne-Marie Métellier elle-même, c'est l'histoire d'un chien mapuche, remarquables, il a toujours pratiqué un certain humour soutenu par l'ironie. Pour lui, l'ironie, c'est lié à l'intelligence, et il l'opposait au sarcasme où il voyait de la lâcheté. Et cette mise à distance avec de l'humour, elle permet de mieux comprendre, de mieux raconter. Et il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans un entretien qu'on peut trouver sur Internet avec le très bon journaliste Philippe Lefay. Sepúlveda disait « La subversion est une vertu, c'est un droit et un devoir, un exercice d'intelligence sociale à pratiquer tous les jours. »
Alors tu évoquais Paco Ignacio Segundo, qui est venu lui au Salon du Livre d'Arras.
Oui.
Par contre, Luis Sepúlveda n'est pas venu, mais il aurait pu venir. Il y avait toute sa place. On est vraiment dans une littérature d'expression populaire et de critique sociale. Il faut dire des livres toujours assez courts, j'ai envie de dire. Hein. Et une écriture très accessible, très simple et très forte par la même occasion. Et voilà, donc une littérature puissante, Hervé.
Ben, je crois qu'avec toi, en même temps, c'était Sepúlveda qui a été marqué par ses grands-pères, l'un qui était un anarchiste andalou espagnol réfugié en Amérique du Sud, et de l'autre côté, il avait des ascendances avec les Indiens Mapuche. C'est quelqu'un qui a très tôt hérité du goût pour les histoires, de les entendre et puis après donc de les raconter. Et à côté de, avec c'est une espèce comme ça de tradition orale à la fois simple et puissante en même temps. Et lui reconnaissait aussi qu'en littérature, sa grande référence, c'était Ernest Hemingway, dont on sait l'écriture, comme tu dis, dépouillée, efficace et tellement expressive.
Voilà, donc un salut à Luis Sepúlveda, à lire, relire. Voilà, donc c'était Variation en noir, une émission de Radio PFM en collaboration avec 813, l'Association des Amis des Littératures Policières, en particulier avec Hervé. Hervé, au revoir. Et
au revoir Guy, au revoir Bernard, au revoir à toutes et à tous, et puis bon courage, bonne lecture.
Voilà, et rendez-vous dans un mois pour de nouvelles variations en noir. Très bonne lecture en noir à toutes et à tous. Down the road I'm gone.